tout de suite le journal. Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Près de 800 kilos de viande avariée polonaise ont été retrouvés dans 9 entreprises du secteur agroalimentaire en France. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume au surlendemain de l'annonce de l'ouverture en Pologne d'une enquête sur l'abattage et la commercialisation de bovins malades.
Dans votre journal également, le débat ouvert par les Gilets jaunes sur les inégalités doit amener l'exécutif à changer de politique pour le logement.
Oui, c'est ce qui ressort du rapport de la Fondation Abbé Pierre pour 2018, année marquée par la persistance de 4 millions de mal logé. Quand l'ex-chargé de mission à l'Élysée, Alexandre Benalla, se vante d'avoir maintenu des liens importants avec la présidence, après son licenciement, les doutes persistent quant à un possible scandale d'État. De son côté, l'Élysée dément les propos qui lui sont attribués.
Dans une décision rendue ce matin, le Conseil constitutionnel a validé la loi pénalisant les clients de personnes se livrant à la prostitution.
Les sages estiment que cette loi assure un équilibre entre la volonté de sauvegarder l'ordre public et la liberté personnelle. Après avoir annoncé hier avoir mis fin à une nouvelle campagne de manipulation orchestrée depuis l'Iran, Facebook a prévenu ce matin avoir fermé des centaines de comptes liés à un groupe accusé de propager des messages de haine en Indonésie. Enfin, invité de la page Europe de ce vendredi, Barry Ward, élu local irlandais, membre du comité européen des régions. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Quelle égalité réelle et quelle liberté réelle dans la liberté d'aimer? C'est à cette vaste question qu'il s'attelle dans son nouvel essai Eros Capital, les lois du marché amoureux. Notre invité, le philosophe et essayiste belge François de Smet.
Merci, à tout à l'heure. Quand un scandale en remplace un autre, la question n'est plus de savoir si une nouvelle affaire éclatera, mais quand. Et ce matin, après que l'inspection vétérinaire polonaise a annoncé que 2,7 tonnes de viande, de bovins malades et illégalement abattus avaient été exportées dans 10 pays européens, le ministre français de l'Agriculture, Didier Guillaume, a lui annoncé que 9 entreprises nationales du secteur agroalimentaire avaient été destinataires de près de 800 kilos de viande avariée. Or, la France n'est pas la seule concernée, puisque ce scandale alimentaire qui secoue aujourd'hui la Pologne aurait en réalité des conséquences dans une dizaine de pays de l'Union européenne. Autant dire que la Pologne, deuxième exportateur de viande bovine dans l'UE, risque gros. Les précisions à Varsovie de notre correspondant Damien Simonard.
Les 10 pays qui ont importé au total environ 2,5 tonnes de viande bovine provenant d'animaux malades sont la France, l'Espagne, le Portugal, la Finlande, la Hongrie, l'Estonie, la Roumanie, la Suède, la Lituanie et la Slovaquie. Cette viande provient d'un abattoir du nord-est de la Pologne où un journaliste de la chaîne TVN24 s'est infiltré pendant 3 semaines. Ces images en caméra cachée montrent des vaches qui ne tiennent plus debout, traînées par terre dans l'abattoir à l'aide d'un treuil avant d'être tuées, et des carcasses dont les tumeurs ou autres preuves de mauvaise santé sont découpées. Les scènes se passent de nuit, sans aucun vétérinaire. L'un des employés déclare même, je cite, « Les gens, c'est pas comme les cochons, ils mangent tout ». Suite à l'éclatement de l'affaire, Varsovie a lancé des contrôles dans tous les abattoirs du pays. Le ministre de l'Agriculture déclare qu'il s'agit d'un incident isolé, mais les auteurs du reportage affirment le contraire. Et si tel est le cas, c'est tout le continent qui peut être touché, la Pologne étant le deuxième exportateur de viande bovine dans l'Union européenne.
Alors du lait en poudre contaminé aux salmonelles, aux œufs, au fipronil, en passant par les poulets, aux dioxines. Ces 20 dernières années, les scandales alimentaires en Europe et dans le monde se suivent et se ressemblent tristement. Dès lors, comment expliquer une telle répétition? Comment un tel scandale sanitaire peut-il encore se produire en Europe en 2019? Je vous propose d'écouter la réponse de Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch, interrogée ce matin chez nos confrères de France Info.
Alors comment c'est possible? Écoutez, la semaine dernière, on vous parlait du scandale de la viande de cheval dont le procès s'est ouvert à Paris et qui va finir la semaine prochaine, en pointant du doigt les problèmes persistants de traçabilité dans les circuits de distribution alimentaire en Europe et en pointant du doigt les manques de transparence par rapport aux contrôles qui sont effectués.
Ça veut dire que depuis ce scandale de la viande de cheval, depuis 2013, rien n'a changé?
Des choses ont changé puisqu'il y a des réglementations qui se sont un petit peu renforcées, mais tout le problème sur la traçabilité, d'abord on est face à des systèmes qui sont extrêmement complexes et opaques avec plein d'intermédiaires. Donc rapidement, un scandale alimentaire touche des dizaines de pays, mais surtout, il y a des réglementations européennes qui imposent la prévention et qui imposent le principe de précaution aux entreprises et aux autorités. Or, on se rend bien compte que dans la réalité, ça n'est pas suffisamment mis en œuvre. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Ça ne marche pas parce qu'il y a trop de sentiment d'impunité. Il faut obliger chaque acteur, fabricant, distributeur, autorité, à prendre ses responsabilités. responsabilité. Il faut ensuite qu'il y ait beaucoup plus de transparence sur les résultats des contrôles. C'est ce que Foodwatch demande à travers une pétition signée par des milliers de citoyens et citoyennes. Et puis, il faut que les moyens soient donnés aux autorités pour qu'ils fassent ces contrôles, qu'ils soient efficaces. Or, il y a des coupes budgétaires très régulièrement.
Karine Jacquemart, directrice de Foodwatch, une ONG qui milite pour la défense des consommateurs en matière d'alimentation. Le lanceur de balles de défense peut-il servir au maintien de l'ordre? Oui, a répondu ce matin le Conseil d'État, lequel était appelé à examiner plusieurs recours déposés en urgence pour obtenir la suspension de l'usage du LBD dans les manifestations, en particulier après la blessure à l'œil samedi dernier de Jérôme Rodriguez, mais aussi les recommandations du défenseur des droits qui avait réclamé son interdiction. Après avoir déjà perturbé les vacances au soleil du chef de l'État l'été dernier, puis la trêve de Noël du président de la République, Alexandre Benalla viendra-t-il aussi gâcher demain la fête de la Chandeleur à l'Élysée, quoi qu'il en soit? Et après les extraits sonores inédits publiés hier par le site d'investigation Mediapart, extraits plutôt salés que sucrés, comment ne pas risquer à présent l'indigestion? Après les violences du 1er mai, après les selfies au restaurant munis d'un pistolet, après les passeports diplomatiques faux ou vrais, voici revenus les soupçons de collaboration avec un oligarque russe soupçonné par plusieurs magistrats européens d'acquaintance avec l'un des pires groupes criminels moscovites. À cela, il faut encore ajouter que ces enregistrements datés du 26 juillet, autrement dit quelques jours après qu'Alexandre Benalla et Vincent Kras ont été mis en examen pour des violences sur des manifestants, constitueraient en soi une infraction supplémentaire, étant entendu que tout contact entre les deux hommes leur était interdit par leur contrôle judiciaire. Enfin, au-delà des rires de celui qui, selon le sénateur, les Républicains de la Moselle, François Grosdidier, semble ainsi s'exonérer de toutes les règles de la République, ces extraits semblent par ailleurs attester de son lien avec le patron, comme il l'appelle, comprenez, Emmanuel Macron. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Alors dans cet enregistrement, on entend effectivement une voix attribuée à l'ex-chargé de mission de l'Élysée affirmer qu'Emmanuel Macron lui aurait envoyé un message avec ces mots « Tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi ». Comme attendu, l'Élysée a démenti l'existence de ce message, c'est donc désormais parole contre parole. Reste que ces révélations, Stéphane, tombent au pire moment pour le chef de l'État.
Oui, pour le moment, elles mettent plus en difficulté Alexandre Benalla qu'Emmanuel Macron, puisque ces informations viennent d'une part illustrer le sentiment de toute puissance et d'impunité qui semble l'animer, et d'autre part, elle révèle qu'il pourrait avoir menti devant la commission d'enquête sénatoriale, qu'il l'a entendu à deux reprises.
La sanction qui est prévue par la loi...
Le sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur est vice-président de cette commission d'enquête.
C'est 75 000 euros d'amende et 5 ans de détention maximum.
Le point sur lequel Alexandre Benalla pourrait avoir menti, c'est sur le fait qu'il a assuré n'avoir aucun lien et ne pas connaître un oligarque russe avec qui son ami Vincent Kras a signé un contrat de sécurité via une société baptisée Mars. Près de 300 000 euros ont été versés dans le cadre de ce contrat. Or, selon l'une des enquêtrices de Mediapart, Marine Turchi, les liens entre l'homme d'affaires russe et Alexandre Benalla sont aujourd'hui établis.
Alexandre Benalla dit par exemple qu'il n'y a aucun lien entre lui et cet oligarque russe qui s'appelle Iskander Mahmoudov. Eh bien, c'est faux. Premier des liens qu'on met en évidence grâce à une photo qu'on publie, c'est l'intermédiaire de ce contrat. C'est un homme d'affaires français qui représente Iskander Mahmoudov en France. Eh bien, on a une photo de Benalla avec cet homme qui date de fin août dernier. Puis ensuite, on montre que Alexandre Benalla est dans tous les détails des montages financiers dans le contrat de sécurité qui a été signé avec cet oligarque russe, un oligarque qui est soupçonné de lien avec la mafia et qui est par ailleurs proche de Vladimir Poutine.
Alexandre Benalla pourrait donc avoir à répondre de ce qu'il a dit sous serment devant les sénateurs. Et ce n'est pas fini puisque les sénateurs feront immanquablement rebondir cette affaire quand ils rendront publiques les conclusions de la commission d'enquête d'ici quelques semaines. C'est à ce moment-là que ressurgiront un certain nombre de questions potentiellement embarrassantes pour l'Élysée, notamment autour du fait qu'Alexandre Benalla a pu continuer à utiliser ses passeports diplomatiques pendant plusieurs mois après son licenciement.
Merci Stéphane Robert. Après les élus de métropole, le chef de l'État veut entendre les doléances de ceux d'outre-mer invités aujourd'hui dans le cadre du grand débat par Emmanuel Macron. Les maires ultramarins sont toutefois partagés. Certains jugent déjà l'exercice vain après les récentes assises des outre-mer, sans compter que pour les édiles des communes situées à des milliers de kilomètres de la capitale, le déplacement à leurs frais ne va pas de soi. De son côté, Édouard Philippe est lui à Bordeaux. Aujourd'hui, le Premier ministre doit rendre visite cet après-midi aux commerçants affectés par les manifestations de gilets jaunes. Avant cela, il devrait déjeuner ce midi avec son ancien patron de et ex-mentor, le maire de la ville, Alain Juppé. Et tandis que les Gilets jaunes se préparent pour l'acte 12 demain de leur mobilisation, voilà que des hausses potentiellement explosives sont attendues aujourd'hui. Tout d'abord, les prix de centaines de produits de consommation vont augmenter. Et puis, autre hausse particulièrement forte, celle du tarif des péages autoroutiers, hausse en partie compensée toutefois après que le gouvernement a obtenu des sociétés autoroutières qu'elles fassent un geste pour les conducteurs réguliers, lesquels bénéficieront de 30% de réduction à partir de 10 allers-retours par mois. Et toujours dans la réponse du gouvernement aux Gilets jaunes, la problématique du logement a-t-elle été abordée à sa juste mesure? Non, c'est du moins ce qui ressort du rapport annuel présenté ce matin par la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement. En mettant bout à bout les différentes coupes qui ont touché les aides personnalisées, la Fondation estime à 4 milliards d'euros par an leur recul total à partir de 2020. La crise du logement en France toucherait actuellement 12 millions de personnes. Et cette année, la Fondation Abbé Pierre a notamment décidé d'évoquer ces situations qui poussent directement vers la précarité. En l'occurrence, celle de personnes dépendantes d'une institution et qui du jour au lendemain se retrouvent seules et parfois en grande précarité. Ce sont souvent d'anciens jeunes de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi d'anciens détenus ou parfois encore des personnes qui sortent d'hôpital psychiatrique. Fiona Mogadam a rencontré Hugo, un jeune majeur placé en foyer à l'adolescence et qui aujourd'hui n'a pas de domicile.
Ce jour-là, Hugo porte une veste, une chemise et un jean noir. Des habits qui dénotent avec sa situation actuelle et son passé bien lourd pour ses épaules plutôt frêles. Il y a 6 ans, Hugo a été placé en foyer chez les apprentis d'Auteuil. À l'époque, il était en conflit permanent avec ses parents et n'allait plus à l'école.
J'étais dans une phase extrêmement rebelle. Vraiment, vraiment beaucoup.
Après un temps au foyer, une tentative de retour dans sa famille, Hugo finit par s'engager dans l'armée à 17 ans à peine. Mais il ne s'y plaît pas. Il y a plusieurs mois, le jeune homme a donc décidé de revenir vivre dans le Val d'Oise d'où il est originaire. Et depuis, il tente de survivre grâce à des petits boulots, principalement dans la manutention, lui qui n'a ni diplôme ni formation.
J'ai arrêté mon dernier travail là, c'était il y a une semaine. C'est pas un CDI, tout ce qui est foyer, logement, etc. etc. Et ils sont pas prêts à donner à des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il faut un garant. Mais quand t'es tout seul, c'est qui ton garant? Ça va être quoi? Ça va être comment?
Depuis qu'il est majeur, Hugo ne bénéficie plus de l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup trop tôt pour ce jeune adulte qui estime qu'à 18 ans, il n'était encore qu'un ado.
T'as aucune expérience dans la vie? Bah toi, si la personne n'a plus de contact avec sa famille ou quoi que ce soit à 18 ans, comment vous faites? Et bah, l'État, il n'est pas là pour t'aider. Hein. Bah, moi, par exemple, tous les soirs, je me demande exactement où je vais dormir. Là, j'ai des amis, mais à un moment donné, les amis, ça va un temps. Et quand on me dit non, bah, j'ai pas forcément de solution, parce que si on me dit non à 22h, 23h, dans ces cas-là, tu dors dehors et voilà, tu fais des tours de bus pour pas avoir froid. Certes, j'ai passé quelques nuits dehors, des fois 2-3 jours, mais jamais plus. Moi, je vois les SDF, les vrais SDF, qui restent des 3-4 mois à la rue. Ça m'est pas encore arrivé et j'espère pas que ça m'arrivera d'ailleurs.
Par chance et par hasard aussi, il y a quelques jours, Hugo est allé saluer ses anciens éducateurs au foyer des apprentis d'Auteuil. Là-bas, il a appris qu'il pouvait bénéficier d'un soutien pour trouver un travail et un logement. Il a déjà passé plusieurs entretiens et doit maintenant décider entre une formation dans la banque ou le BTP. Si tout va bien, d'ici quelques mois, Hugo devrait signer un CDI.
Les clients des prostituées resteront passibles d'une amende en France. Le Conseil constitutionnel a déclaré ce matin conforme à la loi fondamentale le texte d'avril 2016 prévoyant une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Les sages rejettent ainsi l'argument d'une dizaine d'associations qui critiquent une loi portant atteinte, selon elles, à la liberté d'entreprendre et à la liberté sexuelle. Les explications de Tarache Légal.
Le client d'une prostituée encourt, rappelons-le, 1 500 € d'amende. Le Conseil constitutionnel reconnaît que cela entrave certaines libertés, mais ne donne pas raison pour autant au requérant. Sarah-Marie Maffesoli, de Médecins du Monde, a plaidé pour l'abrogation du texte. Elle détaille quels droits sont effectivement bafoués, selon les sages, mais aussi que finalement la décision du Conseil n'est pas satisfaisante.
Non seulement la liberté d'entreprendre, mais également l'autonomie personnelle, le droit au respect de la vie privée, sont bafoués, mais il estime que les atteintes aux droits fondamentaux sont proportionnés à l'objectif poursuivi, qui est l'objectif de lutte contre la traite. Et c'est bien là où il y a un problème, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait de dire que l'objectif de lutte contre la traite est un objectif fondamental. Simplement, la pénalisation des clients ne répond en aucun cas à cet objectif.
Anaïs exerce sur Internet. Elle a vu sa clientèle fondre depuis la loi, ses revenus baisser. Et elle se sent maintenant la proie d'intermédiaires.
C'est une décision qui est extrêmement démoralisante pour nous, parce que c'est une décision qui touche notre quotidien. Depuis la pénalisation des clients, je suis obligée de faire appel à des intermédiaires pour continuer à travailler. Je passe par exemple par des agences pour trouver des clients ou que je vais travailler dans des salons alors qu'avant la pénalisation du client, j'étais totalement indépendante.
Comme d'autres requérants, Anaïs rappelle que la sécurité et la santé des personnes prostituées est aussi en jeu. En pénalisant le client, qui se fait donc rare, la loi inverse le rapport de force. La prostituée est à la merci de celui qui demande qu'on n'utilise pas de préservatif, par exemple, ou qui veut exercer sa violence. Le Conseil constitutionnel n'a pas tenu compte de ces éléments.
15 ans après sa naissance dans un dortoir de Harvard, si Facebook est devenu aujourd'hui le premier réseau social du monde avec plus de 2 milliards d'usagers, cette incroyable success story se retrouve pourtant et de plus en plus souvent battue en brèche par un flot quasi ininterrompu de scandales. Et la liste des critiques est longue, qu'il s'agisse des défenseurs de la vie privée, lesquels s'insurgent de la collecte toujours plus massive des données personnelles ou bien de la désinformation qui pullule désormais sur la plateforme. Nadine Epstein, bonjour.
Bonjour.
Alors, dernier exemple en date ce matin, Facebook a prévenu avoir fermé des centaines de comptes, de pages liées à un groupe accusé de propager de fausses informations en Indonésie. Or, la veille déjà, le groupe américain avait également annoncé avoir mis fin à une vaste campagne de manipulation orchestrée cette fois-ci à partir de l'Iran et dirigée contre de très nombreux pays.
Et pour autant, Facebook reste très prudent sur les contenus et les expéditeurs des messages supprimés. Le réseau social indique avoir annulé 783 pages, groupes et comptes qui se présentaient en tant qu'acteurs locaux dans 26 pays d'Europe, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud-Est, exemple de l'Afghanistan à l'Inde, en passant par l'Indonésie, la Malaisie, beaucoup d'endroits à forte population musulmane. Certains contenus étaient des détournements de publications émanant de médias publics iraniens. D'autres pages étaient pro-palestiniennes ou anti-israéliennes, en français, en anglais, en espagnol, en hébreu. Des messages en faveur de Téhéran, anti-saoudiens à destination d'un public arabophone du Moyen-Orient et anglophone concernant les théories du complot. Environ 30% des comptes supprimés avaient été créés il y a moins de 5 ans et comptaient plus de 2 millions d'adeptes sur Facebook et plus de 250 000 abonnés à sa filiale Instagram. Globalement, ces comptes amplifiaient les positions internationales du gouvernement iranien. Facebook affirme ne pas pouvoir désigner qui est derrière, que ce soit les autorités ou d'autres acteurs. Le monsieur cybersécurité du réseau social a expliqué que ces suppressions étaient motivées non pas par le contenu des messages, mais par le fait que ceux qui les ont postés l'ont fait via de faux profils et de façon coordonnée dans le but de tromper les utilisateurs. Parallèlement, Twitter annonce aussi avoir supprimé des milliers de comptes entre guillemets malveillants de Russie, d'Iran et de Venezuela. Twitter et Facebook partagent leurs informations sur les opérations d'influence et enquêtent sur les mêmes pistes.
Merci Nadine Epstein. Enfin, depuis son retentissant acquittement, Laurent Gbagbo, son maintien en détention, disons, était au cœur des débats devant la CPI. Ce matin, donc, les procureurs de la Cour pénale internationale ont déclaré être prêts à accepter sa mise en liberté, à condition toutefois qu'il lui soit interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Invité aujourd'hui de la page Europe, Barry Ward, membre du Comité européen des régions, l'organe de représentation des collectivités locales et régionales de l'Union européenne. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Et avec moi en studio pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Première question monsieur Ward, en République d'Irlande, on ne veut pas voir revenir de frontières physiques avec la province britannique d'Irlande du Nord. L'Union européenne s'y est engagée, ainsi que les Britanniques, du moins en principe, car cette semaine, d'un côté comme de l'autre, cela ne semblait plus aussi évident. Est-ce que votre pays, l'Irlande, a l'impression aujourd'hui de subir le choix des Britanniques et comment réagit l'opinion publique ?
Oui, alors pour nous, la chose la plus importante, c'est la frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, comme vous avez dit. Depuis ma naissance, il y a jusqu'à 1998, une frontière là, il y avait des contrôles, des douanes, etc. Il y avait aussi de la violence. Il y avait des problèmes de violence avec cette frontière physique entre nos deux partie du pays. Donc pour nous, la chose la plus importante, c'est de garder l'habilité de traverser l'île d'Irlande sans douane, sans contrôle, etc. Donc à l'époque, il prenait 4 heures d'aller de Dublin à Belfast. Maintenant, ça prend à peu près 1 heure et demie. Donc on a normalisé les relations entre Dublin et Belfast aujourd'hui, et on a très peur en Irlande que si la frontière physique revient, on aura de nouveau des problèmes avec la violence et des problèmes politiques entre Dublin et Belfast, et personne ne veut le voir.
Avez-vous déjà commencé à sentir cette montée de tension, justement ?
Oui, peut-être, parce qu'on a vu des attentats à Derry, dans l'Iran du Nord, il y a peut-être 2 semaines. Donc, ça va arriver très facilement. Et nous protégeons, j'espère, le peuple d'Irlande totale, les deux parties du pays. Et je suis très content de dire que nous avons le soutien de nos amis européens, surtout la France, la Commission et les autres pays européens. Et Monsieur Barnier, il a beaucoup parlé avec notre ministère des Affaires étrangères, Simon Coveney. Ils ont fait leur possible pour protéger cette liberté sur l'île d'Irlande. Mais vous avez raison, Annabelle, il est fort possible que ça va arriver très vite.
Mm-hmm. Barry Ward, alors les relations économiques sont très denses entre les deux Irlandes. On a beaucoup parlé symboliquement de cette Guinness produite dans le sud, embouteillée dans le nord. Mais toute la filière laitière est concernée, la filière bovine. 80% des exportations irlandaises vont vers la Grande-Bretagne. Vous êtes un élu local, vous êtes en prise directe avec le terrain. Alors comment s'organisent les chefs d'entreprise irlandais? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Je dirais premièrement que ce que vous avez dit là, c'est correct. Par exemple, vous avez pris le chiffre de 80% des exportations, mais ça, c'est seulement dans le domaine de filière bovine, filière laitière, etc. En effet, il n'y a que 11% de nos exportations qui vont à la Grande-Bretagne. Pour nous, toujours, le marché le plus grand pour nous, c'est les 26 autres pays de l'Union européenne. Donc, il faut se rappeler que l'Irlande s'est intégrée dans l'Union européenne. Nous sommes européens, nous voulons rester dans l'Union européenne. Mais en même temps, vous avez bien raison, il y aurait pour nous des grands problèmes économiques si le Brexit, sans deal, la sortie dure, si ça va arriver, ça va nous donner des grands problèmes économiques. Et actuellement, le gouvernement irlandais est en train de faire des préparations pour un adoucissement des problèmes. Donc il y a beaucoup d'argent qui sont dépensés actuellement avec les entreprises en Irlande pour se préparer pour ce cas-là d'une sortie sans deal, si vous voulez.
Mais l'Irlande a d'ores et déjà demandé une aide de l'Union européenne en cas de Brexit sans accord, une aide d'urgence de plusieurs millions d'euros. Du côté de Westminster, on planche sur des mesures alternatives au fameux backstop. Mais quelles mesures alternatives pourraient être envisageables du côté de Dublin?
Oui, à vrai dire, il est impossible à ce moment-là de dire exactement ce qui va nous arriver dans le cas de sans deal, no deal, une sortie no deal de l'Union européenne. On espère que ça ne va pas arriver, mais en même temps, on peut dire concrètement que si ça va arriver, on peut voir un débaissement fort de notre économie. Donc on peut voir les effets qui seront là sur l'économie irlandaise dans le cas d'un no deal. En même temps, j'aimerais pas vous dire que tout va tomber et nous sommes en train de faire des préparations. J'espère qu'on n'en aura pas besoin, mais je peux vous dire que le soutien pour l'Union européenne en Irlande est très très fort. Et en plus, on a, comme je vous ai déjà dit, le soutien de nos amis et nos collègues en Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour nous ici en Irlande. J'espère que on a déjà assez fait pour nous protéger. Et le backstop que vous avez mentionné là est très important. Et ça, c'était une assurance d'éviter le fait d'une frontière physique sur notre île. Et ça, c'est, comme je vous ai déjà dit, la chose peut-être la plus importante pour nous, dans le cadre social, culturel et bien politique sur l'île d'Irlande.
Autre chose, votre réseau électrique est un réseau intégré que vous partagez avec l'Irlande du Nord. Et sur ce point également, y a-t-il de grosses inquiétudes?
Bien sûr, oui, tout à fait. En fait, actuellement, je comprends que l'on est en train de faire des négociations avec le gouvernement français pour un interconnecteur celtique entre l'Irlande et la France. Et ça, c'est une chose qu'on est en train de faire pour nous protéger. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé à l'ambassade de France ici à Dublin pour rencontrer avec le président de la région dite de Normandie au sujet des ports de l'ouest de la France et pour créer des routes directes de l'Irlande en France. Donc, nous sommes en train de faire des liens, et évidemment, il y a des liens déjà entre l'Irlande et la France, des liens historiques et culturels, etc. Mais on est en train de refaire des liens commerciaux commerciaux, des liens d'affaires entre l'Irlande et la France pour nous protéger. Et dans le cadre de l'électricité, voilà, c'est un exemple de ce qu'on est en train de faire.
Et on terminera là-dessus. Merci Barry Ward,
pour votre excellent français également.
Comité européen des régions, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Annabelle Grolier. On termine avec un mot rapide de météo. Temps agité avec des précipitations assez soutenues sur l'ensemble du pays. Attention plus particulièrement à la quinzaine de départements. Vigilance, pluie et inondations ou neige et verglas, mais aussi avalanches. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 5 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.